L'atelier politique avec Frédéric Rivière.
Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Le propos de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et pourrait nous arriver. Ce soir, nous sommes avec Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. Bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Vos propos ne feront donc l'objet d'aucun montage. Nous sommes ensemble pour environ trois quarts d'heure et vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Cette émission, Juliette Méadel, s'appelle l'atelier politique et j'aimerais donc vous demander, comme je le fais à chacun de mes invités, quel est votre outil préféré?
Ça ne va pas vous surprendre, mais j'adore les stylos plumes, et en particulier un que j'ai depuis que j'ai passé mon bac avec, et qui m'accompagne, que mon père m'avait offert, et qui a une valeur un peu quasiment comme un porte-bonheur, qui me donne le sentiment de pouvoir... créer quelque chose, même si aujourd'hui on écrit beaucoup sur Internet, enfin sur les ordinateurs.
Oui, c'est un stylo. Et c'est vrai qu'on perd d'ailleurs, enfin je le remarque moi parfois, on perd l'habitude d'écrire à la main et on est parfois surpris de constater que son écriture se modifie un peu par cette perte d'habitude.
Oui.
C'est un stylo plume à recharge à l'ancienne, avec le petit flacon d'encre.
À recharge à l'ancienne, donc je m'en mets partout à chaque fois que je le recharge.
Ça a beaucoup de charme. Il y a l'odeur de l'encre, il y a les taches d'encre qu'on se fait sur les doigts.
C'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours des taches d'encre sur les doigts. Mais surtout, je peux pas bien apprendre quelque chose
sans l'avoir écrit.
Ouais. J'ai besoin de ce contact avec l'écriture. Et là, je vois maintenant pour mes entretiens, toutes les personnes que je vois avec lesquelles je travaille aujourd'hui, depuis que je suis au gouvernement, j'ai besoin d'écrire ce qu'elles me disent. Alors, ça peut paraître un peu curieux, mais j'ai besoin de l'écrire. Et en l'écrivant, je me l'approprie et je rentre dans le sujet beaucoup
mieux.
Mais
c'était autrefois à l'école, on disait ça aux élèves. Écrivez, ouais, vous retiendrez.
Ouais.
Alors, vous avez parlé de votre bac, mais après le bac, vous avez fait un parcours d'études supérieures très riche, très dense. Maîtrise de droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ce qu'on appelle Sciences Po, DEA, c'est-à-dire diplôme d'études approfondies, de philosophie, doctorat de droit privé, et enfin l'ENA, promotion Robert Badinter, vous en êtes sorti en 2011. Qu'est-ce que vous cherchiez en multipliant comme ça les disciplines et en accumulant les diplômes?
Bah écoute, j'ai commencé par une hypocagne qui m'a fait un bien fou, parce que c'est là que j'ai appris à travailler. Bon, après, c'est quand même la chose publique qui me passionnait, et surtout le droit, parce que le droit, c'est comment on peut changer la vie avec les lois. J'avais une espèce de religion du droit, parce que je pensais que c'était ça qui permettait la justice, en fait. Bon, et puis j'ai commencé à faire de la politique après. J'ai été avocate d'affaires, il fallait bien gagner sa vie.
Il fallait bien gagner sa vie, et on gagne bien sa vie comme avocat
d'affaires. Oui, mais alors, vous avez raison, il fallait bien la gagner parce qu'il fallait que je sois autonome. Parce qu'à un moment donné, à 24 ans, je ne pouvais plus rester chez mes parents. Donc, j'ai pris ce job, et vous avez raison de dire qu'on gagne bien sa vie. Bon, mais je cherchais quand même l'intérêt général derrière tout ça. J'étais taraudée, et c'est pour ça que j'ai fait une thèse sur les marchés financiers et l'intérêt général.
Mais alors voilà, justement, je voulais vous en parler. Donc, marché financier et ordre public, je crois que
voilà,
c'était ça.
C'est la notion juridique de l'intérêt général en droit privé.
Est-ce qu'il n'y a pas marché financier, ordre public, il y a quelque chose de l'ordre du conflictuel?
Totalement. On est totalement dans le conflictuel. J'étais avocate d'affaires, j'avais fait Sciences Po et Cofi, j'avais fait du droit des affaires. Je me retrouve plongée dans la grande finance. C'était l'époque quand même luxuriante de la finance, qui était prestigieuse, qui attirait. Je suis dans un cabinet de droit des affaires américain. Et là, tous les jours, en allant travailler, je me pose la question de savoir, au fond, à quoi ça sert tout ça? Et est-ce que cette finance incroyable sert l'intérêt général? À quoi ça sert? Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette thèse, et j'ai tenté de résoudre cette contradiction entre la finance qui proliférait et l'intérêt général, mais surtout l'intérêt des plus fragiles et l'intérêt collectif.
La finance, c'est l'argent qui dort, comme avait dit François Mitterrand, c'est ça, hein?
C'est l'argent qui dort, mais c'est aussi quand même l'argent utile, parce que la finance, quand on l'utilise bien, elle peut permettre aussi de sortir des pays de la pauvreté, elle peut permettre, quand elle est bien encadrée et bien régulée, de servir des projets d'investissement, d'innover, de faire de la recherche. Et donc, elle est nécessaire, et les marchés ne sont pas forcément destructeurs si on arrive à à les canaliser correctement.
Il n'est pas scandaleux de gagner de l'argent. La question est
de
savoir ce qu'on en fait.
À condition de bien
en fait,
l'utiliser. Mais à l'époque, il y avait toute une réflexion sur le capitalisme qui est en train de devenir fou. Et j'avais dit à la fin de ma thèse que si on n'encadrait pas la finance, on risquait de remettre en cause le fonctionnement même des économies. Et il se trouve que j'ai soutenu l'année de la crise des subprimes en 2007. Ouais. Et c'était quand même la fin d'une époque que j'avais dénoncée de la grande dérégulation financière où tout était permis, alors qu'il fallait un cadre d'ordre public pour mettre la finance au service de l'intérêt général.
Votre père était un haut fonctionnaire. Il a notamment été le directeur de cabinet d'Edith Cresson lorsqu'elle était au ministère de l'Agriculture entre 1980 et 1982. Donc on était, je parlais à l'instant de François Mitterrand, on était au moment de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Vous étiez une enfant à ce moment-là, vous aviez 7-8 ans. La politique, ou plus largement, et d'ailleurs je remarque que vous avez employé le mot, mais je l'avais écrit, la chose publique, c'était des sujets qui étaient très présents au sein de votre famille ?
Oui, indéniablement. J'étais dans une famille de gauche engagée. Alors mon père n'avait pas de carte, il n'aimait pas les partis politiques. Ouais. Mais on parlait évidemment d'intérêt général. Mon père me racontait par exemple qu'il avait eu la chance un jour, jeune, de rencontrer De Gaulle. Et que cette rencontre incroyable où il sort de l'ENA, il était boursier, mon père. Il a fait l'ENA au deuxième concours, c'est-à-dire après avoir été inspecteur des impôts, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il rencontre le général de Gaulle qui lui dit « Jeune homme, qu'allez-vous faire à la sortie de l'ENA ?» Et mon père lui dit « Oh bah budget, finance, bon. » Et le général lui dit « La seule chose qui compte, c'est les questions sociales. C'est de prendre soin des plus fragiles. » pour que la République fonctionne bien. Voilà. Et mon père m'a toujours raconté cette histoire-là. J'ai une mère enseignante, très engagée aussi, qui a aidé notamment les jeunes en rupture de parcours scolaire, qui les a aidés à se réinsérer, qui était engagée dans la formation continue, qui a fait beaucoup d'associatifs. Donc oui, c'est une famille engagée, complètement convaincue qu'il faut œuvrer chaque jour à l'intérêt général, d'une manière ou d'une autre.
Et vous avez une grande sœur qui est votre aînée, qui a quelques années de plus que vous, et qui est sociologue. Est-ce que ses travaux ont nourri aussi votre réflexion ?
Oui, alors elle est aujourd'hui vice-présidente de Paris 2 à Sas. Ouais. C'est une historienne des médias.
Ouais. Alors je le précise parce que c'est amusant, c'est vrai que sa thèse portait, puisqu'elle est docteur en histoire, et sa thèse portait sur l'histoire de la radio. Exactement. Dans les années 30, absolument. Dans laquelle elle cherche, je cite, à savoir comment la radio est devenue un objet quotidien et ordinaire.
Ouais. Un objet politique aussi, d'une certaine manière. Ce qui l'a conduit aujourd'hui à former les étudiants d'Assas aussi sur toutes les nouvelles technologies de l'information. Mais oui, bien sûr qu'elle se pose des questions qui appellent des réponses. Et des réponses, les réponses des chercheurs ne sont pas les réponses des politiques. Et donc parfois, la sociologie et les politiques publiques dans l'action ont du mal à se rencontrer.
Vous avez été porte-parole ensuite du Parti Socialiste pendant 2 ans, entre 2014 et 2016. Et puis, il y a eu cet épisode très marquant pour vous. Vous êtes entré au gouvernement début 2016 comme secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes. Ce poste avait été créé pour venir en aide aux victimes des attentats terroristes islamistes qui avaient endeuillé la France en janvier et novembre 2015. Qu'est-ce que vous a appris cette fonction ? On imagine qu'elle a été finalement humainement très forte.
Oui, c'était très fort. Ça vous ramène modestement à votre place, qui est à ces fonctions-là, il faut aider et être utile. C'est-à-dire que on n'attendait pas de moi que je sois dans la compassion, mais dans le soutien et dans l'action. Je me souviens, à l'époque, j'étais enceinte. Je me souviens du regard au début qui a été porté sur ma nomination par quelques hommes blancs qui étaient dans les cercles du pouvoir, me disant « c'est formidable, tu es enceinte, tu es une femme, tu vas pouvoir t'occuper des victimes ». Sauf que très vite, en rencontrant ceux qui avaient tout perdu, j'ai bien compris que d'abord les respecter dans leur dignité, c'est pas s'adresser nécessairement à leur émotion, parce que chacun a sa pudeur et qu'il faut la respecter. Mais surtout, il faut être efficace. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens le premier gros crash d'avion dont je m'occupe des victimes alors que je suis encore enceinte, c'est l'Egypte Airlines, où au nord du Caire, un avion de 200 personnes disparaît, corps et biens, et où je vais voir à l'aéroport de Roissy les mères, les pères qui attendent, les frères qui attendent d'avoir des nouvelles de leurs proches qui sont morts, mais ils ne savent pas exactement qu'ils sont morts. Ils ne savent pas tout à fait ce qui s'est passé. Ils hésitent, on cherche, on n'a pas d'informations. Et là, de quoi ont-ils besoin ? Ils ont besoin d'informations. Ensuite, ils ont besoin que vous les aidiez à savoir de quelle façon très concrètement ils vont pouvoir avoir des nouvelles. Quel est le numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler ? Pendant les attentats de Nice, la grande question, c'était dans quels hôpitaux sont les blessés ? Il faut être efficace. Ouais. Et il ne faut pas croire qu'on se complaît dans la compassion. Non, l'État doit être là pour, autant que faire se peut, essayer de régler les problèmes. Et une fois que le deuil a lieu, évidemment, il faut rendre hommage à tous les secouristes, aux victimes, et inscrire ces événements tragiques dans un récit, qui est le récit de la France.
Mais, bon, je le disais, c'est sans doute humainement extrêmement fort. Vous avez occupé ce poste 15 mois, puisqu'en fait, après, il y a eu une élection présidentielle, hein, en 2017, remportée par Emmanuel Macron, donc c'était le départ de François Hollande. C'est un poste que vous auriez pu, qu'on pourrait occuper vraiment longtemps, parce que ça doit être un peu épuisant, peut-être. Enfin, tout dépend comment on est structuré, mais mentalement, moralement, ça doit être difficile, non ?
Oui, alors c'est difficile. C'est difficile en plus parce qu'il ne faut pas s'écouter. Il ne faut pas écouter sa propre peine et ouais. sa propre douleur.
Mettre de la distance et en ayant de l'empathie, c'est
difficile. Je me souviens d'avoir été avec Manuel Valls à l'hôpital des Invalides où il y avait les victimes des attentats de novembre. Mmh. C'était des jeunes hommes et des jeunes femmes rendus infirmes. Hein. Et là, quand vous voyez les blessés, la blessure comme ils sont, en fait, j'allais me cacher pour pleurer parce que je voulais pas qu'ils le voient. Parce qu'au fond, c'est eux les victimes, c'est pas vous. Donc vous avez de la peine, mais je pense qu'il faut pas le montrer. Il faut que vous soyez là pour les aider. Il faut presque essayer de tout faire pour les faire rire, pour leur apporter de la joie. Vous devez pas vous apitoyer sur votre sort alors que c'est pas vous qui êtes victime. Donc c'est un rôle où il faut pas penser à soi, surtout pas. Il faut s'effacer. Et se mettre à la place de celui que vous devez servir au nom de l'intérêt général. Donc en plus avec le souci de la dignité de la fonction.
On va clore cette première partie un peu personnelle par la musique, qui était quelque chose d'important dans votre vie. Vous êtes une grande mélomane, vous pratiquez le piano, vous l'avez beaucoup pratiqué à une époque, c'est un peu moins de temps
hélas,
aujourd'hui.
Hélas, oui, j'aimerais bien, mais ça m'a sauvé. Le piano m'a sauvé, honnêtement.
Sauvé de quoi ?
Le piano m'a structuré. Il m'a appris que le travail pouvait payer, qu'il pouvait être utile, et m'a donné confiance en moi aussi.
Ouais. Quel est votre registre ? Quel est votre domaine de prédilection ? Enfin, votre registre de prédilection en musique ? Je ne parle pas pour la pratique, mais pour l'écoute.
Moi, je suis très classique sur tout Debussy, Chopin. J'aime beaucoup le piano jazz, mais j'y arrive pas. En fait, moi, j'ai été formée au piano classique, donc je suis incapable d'improviser. D'ailleurs, j'admire beaucoup deux de mes fistons qui savent improviser en jazz. Moi, je sais pas faire. Ouais. Moi, j'ai besoin d'une partition, j'ai besoin de répéter chaque mesure, et je reste dans le piano classique avec évidemment une passion pour les grands auteurs. Enfin, on en reparlera, mais Ravel, Bach, Chopin.
Eh ben, on va illustrer immédiatement cette passion pour la musique. Avec le premier de vos choix musicaux dans cette émission, il s'agit d'une œuvre donc de Frédéric Chopin, l'étude numéro 3 interprétée par Maurizio Pollini. L'étude numéro 3, dite « Tristesse » de Frédéric Chopin, interprétée par Maurizio Pollini. Alors, nous en parlions pendant que nous l'écoutions. D'abord, vous l'avez jouée, cette étude ?
Oui, je l'ai jouée en audition de piano. C'était ma préférée. J'avais une prof de piano extraordinaire qui m'a littéralement sauvée. J'ai commencé avec elle à l'âge de 8 ans. Et je pense toujours à ces parcours qu'on a tous dans nos vies, à un moment donné. Et je pense en particulier aux jeunes dont je m'occupe dans les quartiers politiques de la ville. De temps en temps, quand vous rencontrez un tuteur, un prof qui a confiance en vous, qui est exigeant, qui vous pose des limites, mais qui est exigeant et qui vous amène à donner le meilleur de vous-même, ça vous sauve pour la vie entière.
Ouais, et on verra un peu plus tard dans cette émission que vos goûts musicaux sont variés, ne se limitent pas à la musique classique.
Et je vais en profiter pour lui rendre hommage. Elle s'appelait Madame Gutière et elle est morte l'année
Madame
dernière.
Madame
Gutière.
Ah, j'avais compris Luthière.
Non, Madame Gutière, elle était extraordinaire. Elle est morte l'année dernière et donc je vais lui rendre hommage.
Eh bien voilà, c'est fait. Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique, émission réalisée par Mathias Golshani. On va revenir, Juliette Méadel, à votre regard sur le monde aujourd'hui, le monde maintenant. Est-ce que tout d'abord, vous avez regardé tout ou partie de la cérémonie d'investiture de Donald Trump le 20 janvier ?
Écoutez, j'ai regardé une partie parce que j'étais en train de travailler pour le quartier politique de la ville. J'ai regardé ce qui, je trouve, est un spectacle, pour ne rien vous cacher, triste. Alors, en même temps, je le dis en respectant évidemment les électeurs, parce que c'est normal et que c'est la démocratie. Mmh. Mais je trouve que c'est un spectacle, pour tout vous dire, assez désespérant, parce qu'on a l'image d'une Amérique qui rebondit, qui est forte, qui est le pays de la démocratie, qui est aussi un pays généreux, qui est aussi le pays de l'intelligence. Et de la créativité. Bon, et on a là quand même un président qui déçoit au moins sur ce qui me paraît être les valeurs essentielles, qui sont les valeurs d'humanité, de respect de l'autre, de respect des droits des femmes. Et je pense notamment à cette évêque femme qui lui a fait une sorte de leçon de choses et de morale en lui disant que oui, contrôler les frontières, oui, mais être humain comme la religion même de Donald Trump doit le lui apprendre, c'est-à-dire être miséricordieux et savoir venir en aide aux plus fragiles, ça fait aussi partie des devoirs de l'humanité. J'espère que les Américains vont se ressaisir et qu'à l'exercice du pouvoir, le président va être rattrapé par la réalité de la vie et par la nécessité d'être plus respectueux des autres et cherchant la paix aussi.
Alors, il sera peut-être aussi rattrapé par la réalité du droit. En tout cas, c'est ce que beaucoup
disent. Toujours espérer.
Vous parliez du droit tout à l'heure. En tout cas, le 20 janvier, donc jour de l'investiture de Donald Trump, vous avez posté ce message sur le réseau social X, qui appartient, comme chacun le sait, à Elon Musk. Nos économies et nos démocraties sont victimes d'un tsunami historique avec Donald Trump. Ceux qui, comme Éric Zemmour, Sarah Knafo, Marion Maréchal, se félicitent de son arrivée au pouvoir, n'aiment ni la République, ni la France, ni l'Europe. Bas les masques, il est temps de réagir. Alors, première chose, vous vous attendez à une sorte de double tsunami économique et démocratique ?
Oui, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que, sur le plan économique, menacer l'Europe de représailles de droits de douane, sur le plan de notre système économique et puis des échanges qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis depuis 1945...
Alors, il dit qu'il y a un gros déficit commercial en la défaveur des États-Unis avec l'Europe.
Bien sûr, mais à partir du moment où il remet en cause le système de fonctionnement des échanges, qui était quand même aussi basé sur l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire avec une vision juste des échanges internationaux, où chacun s'y retrouve, où on essaie d'éviter le travail des enfants, où on tend vers un commerce équitable et où on essaie de trouver un bon équilibre dans notre accord. Remettre ça en cause, c'est remettre en cause toute la construction de la paix et de l'économie mondiale de marché. Je ne dis pas qu'elle fonctionne bien, mais elle ne fonctionnera pas bien si chaque pays se retranche derrière ses frontières. La justice dans le commerce, ça passe d'abord par des accords entre les pays. Il faut se mettre d'accord et c'est un échange. C'est du donnant-donnant. S'il se retranche derrière ses frontières, ça va être du perdant pour l'Europe et je ne suis pas sûre que ce soit du gagnant pour les États-Unis.
Ouais. Donc alors, sur le plan économique. Ça serait le tsunami économique et démocratique. Alors.
Sur le plan démocratique, l'attitude de Donald Trump, par exemple, sur la guerre en Ukraine... La guerre en Ukraine, ne nous y trompons pas, c'est quand même une volonté de la part des Russes d'enfreindre, de remettre en question l'équilibre de paix et aussi nos modèles occidentaux de liberté et de démocratie. L'Europe attire les pays qui sont à la frontière avec la Russie. L'Europe attire l'Ukraine, l'Europe attire aussi tous les anciens pays de l'URSS. Et donc Poutine a un intérêt clair à faire en sorte que cette attractivité ne joue plus et essaie de remettre en cause nos démocraties, pas qu'en envahissant l'Ukraine, mais aussi, on le sait, par des tentatives d'intrusion dans nos processus électoraux, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ce qu'il est en train de se passer, c'est une espèce d'affrontement au moins idéologique entre des pays, la Russie, peut-être la Chine, peut-être l'Iran, qui remettent en cause notre modèle démocratique occidental et toute notre construction, et ce que nous avons réussi à construire. Donc on a d'un côté la liberté, l'économie de marché, la République parce qu'on a la laïcité, et puis on a de l'autre, des puissances aujourd'hui qui ont décidé que ça n'était pas le bon modèle et qui veulent nous fragiliser,
mais vous
nous
mettez,
fracturer.
Vous mettez les États-Unis de Donald Trump dans ces puissances aujourd'hui ?
Les mots qu'il utilise contre la construction européenne, contre un certain rapport à la social-démocratie, à la laïcité, à notre capacité à nous aussi à intégrer, à notre modèle d'intégration, tous ces mots-là sont des mots qui veulent porter atteinte à notre modèle. Et donc, je remets aussi ça en cause sur un volet après purement symbolique, qui est celui de l'Europe. L'Europe nous a quand même permis de vivre en paix. Elle a des défauts, il faut la revoir, la gouvernance ne va pas, l'Europe sociale n'existe pas, et donc il y a beaucoup de travail. Mais quand Donald Trump cherche à fragiliser l'Europe, par exemple en parlant directement avec l'Allemagne, ou par exemple en soutenant des régimes européens qui ne sont pas des régimes exemplaires comme par exemple la Hongrie, en fait, il remet en cause toute notre histoire après la Seconde Guerre mondiale, et il remet aussi en cause ce trésor que nous avions qui était... une démocratie, un respect des droits de l'homme, une convention européenne des droits de l'homme, et qui est un système qui n'est pas parfait, mais qui est le pire à l'exception de tous les autres. Et au fond, Donald Trump remet en cause le grand acquis de Roosevelt, qui avait dit que l'Europe était aussi un bien, qui servait aussi les États-Unis du point de vue de la paix, du point de vue du commerce.
Vous avez parlé de l'Europe, justement face à Donald Trump, qui répète, on le sait régulièrement, America first, donc l'Amérique d'abord. Est-ce que vous pensez que la stratégie, elle doit être strictement européenne, ou est-ce que les nations, la France en l'occurrence, a aussi quelque chose à faire en elle-même ?
Bon, d'abord, la réponse pour être à la hauteur, c'est l'Europe, parce qu'il y a un problème de taille, de masse critique, économique, financière. Donc pour exister par rapport aux États-Unis et à la Chine, c'est quand même l'échelon européen qui prévaut. Bon, ensuite, est-ce que la France peut en prendre l'initiative ? Oui. La France a à faire valoir son rôle historique dans la construction européenne, et elle a aussi à faire valoir un modèle dont on doit être fier, qui est notre système de service public, notre laïcité, et notre modèle ou notre volonté d'intégrer et de ne pas assigner à résidence identitaire, si je puis dire, ceux qui viennent d'ailleurs. Nous, en France, on doit considérer tout un chacun en fonction de sa citoyenneté. C'est-à-dire de son choix d'être en conformité avec les règles du pays et pas en fonction de ses origines. Le modèle américain qui essentialise n'est pas le modèle français. Donc la France a quelque chose à dire.
C'est aussi le modèle de la réussite. Parfois, les parcours de vie d'un certain nombre d'individus, y compris venus d'ailleurs. Prenons par exemple Schwarzenegger, qui, si je ne m'abuse, est autrichien. Bon, voilà, et qui est devenu gouverneur. Enfin, il y a cette façon aussi, enfin, ce modèle de la réussite possible pour tout le monde qui existe.
Mais en
aux
France
États-Unis.
Aussi, en France aussi, il existe. Sauf qu'en France, on a d'autres outils. On a la méritocratie républicaine, on devrait avoir l'école, et on l'a, l'école. Vous voyez, on parlait des concours tout à l'heure.
On parle beaucoup de plafond de verre en France. Et on continue beaucoup à dire, à tort ou raison, là je ne me prononce pas, mais que pour un certain nombre de personnes, c'est plus difficile que pour d'autres.
Oui, mais aux États-Unis, c'est encore plus inégalitaire. La réussite aux États-Unis repose quand même beaucoup sur, d'ailleurs Donald Trump en est exactement le symbole, sur l'héritage, malgré ce que le mythe américain cherche.
En France aussi, vous savez. Oui, mais la part de l'héritage aujourd'hui dans la richesse des individus est considérable.
Oui, parce que notre système devrait être beaucoup plus égalitaire. Mmh. Mais en France, on avait, depuis le général de Gaulle, on avait quand même, prenons la question des concours et de l'école, on avait quand même la possibilité de se hisser. Oui. À des fonctions grâce à l'école. Enfin,
bien sûr, il y a de nombreux exemples.
Mon père était boursier à l'âge de 10 ans. Oui, oui. Il n'avait plus de parents pour s'occuper de lui. Il a été boursier toute sa vie. Et puis, avec la méritocratie républicaine, il a réussi à être dans la haute fonction publique. Et puis, c'est la réussite par l'école. Les États-Unis, c'est un modèle où aujourd'hui tout est payant. Les études supérieures sont extrêmement chères. Et donc, le poids de l'héritage et le poids de l'argent sont beaucoup plus prégnants que chez nous, même si chez nous, et je le redis, et c'est le sens de mon engagement aussi dans ce gouvernement, on a beaucoup de progrès à faire sur la question justement de la reproduction des élites et sur l'ouverture des études supérieures à tout un chacun. Et d'ailleurs, j'ai des propositions là-dessus.
Alors, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a parlé de l'émergence d'une internationale réactionnaire. Il ne l'a pas nommé, mais on a compris qu'il pensait en particulier à Elon Musk. Vous partagez cette analyse ? Vous voyez émerger une internationale réactionnaire ?
Oui, je pense qu'il a le président de la République a la bonne, je trouve qu'il a la bonne formule. on est en train d'assister, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à un front organisé de remise en cause du modèle démocratique européen, voire même républicain avec la laïcité à la française. Tout ce qui est l'héritage des Lumières, tout ce qui a quand même été au cœur de l'émancipation intellectuelle en Europe et aussi aux États-Unis est battu en brèche par ceux qui pensent que se servir, favoriser la mise en place d'une oligarchie comme ce à quoi on sont en train de contribuer Elon Musk, Zuckerberg et le patron d'Amazon, c'est la destruction de la démocratie à la grecque. C'est-à-dire qu'on a appris quand on était petit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour l'intérêt général, comme le disaient les philosophes des Lumières. On se retrouve aujourd'hui avec des États-Unis qui prônent l'oligarchie, le chacun pour soi, et qui confèrent les clés du pouvoir politique aux plus riches. Puisque quand vous regardez la composition du cabinet de Trump, le montant total de la richesse des membres du cabinet de Trump, c'est 100 fois celui des membres du cabinet de Biden. Ça vous donne une idée des conflits d'intérêts considérables entre les grandes fortunes qui sont aujourd'hui au pouvoir et leur capacité à prendre des décisions qui les servent, qui
mais
ne servent
pourtant,
pas le peuple.
Et vous l'avez dit d'emblée lorsque nous avons abordé la question de Donald Trump, ce sont les électeurs américains qui l'ont choisi démocratiquement et il a eu le vote populaire.
Il a eu le vote populaire sur mais un alors, point sur lequel je comprends qu'il l'ait eu. Et auquel je suis aussi très, très, très attachée, et qui est la défaite de la politique en France et en Europe, c'est le pouvoir d'agir. On souffre en France de cette conviction qu'ont les gens de l'impuissance publique. C'est le titre du livre que j'ai écrit il y a quelques années sur « Pour en finir avec l'impuissance politique ». Ce que Donald Trump fait, c'est qu'il dit qu'il a le pouvoir de décider. Il dit qu'il fait ce qu'il dit et qu'il a décidé qu'il allait arrêter la guerre en Ukraine. Alors là, comme il vient d'être investi, il est obligé de menacer Poutine si la paix n'arrive pas en Ukraine dans les 3 jours de son investiture. Donc je doute un peu de l'efficacité de ses grands propos. Mais Trump a gagné pour ça.
Il met ça en scène.
Mais il met ça en scène.
Avec des signatures de décrets devant les caméras.
Voilà. Donc c'est là-dessus qu'il est fort. Et c'est là-dessus qu'on doit progresser. Parce que, bon, je suis convaincue qu'il va avoir beaucoup de mal, mais je comprends que tout le monde se dise, et s'il y arrivait ? Et si c'était merveilleux ? Et si d'un coup de baguette magique de M. Trump, on pouvait arrêter la guerre en Ukraine, arrêter la guerre en Israël, régler les problématiques de commerce ? Bon, il reste la question écologique où il est extrêmement dangereux et où, quand je le vois arriver au pouvoir, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce film « Don't Look Up ». Vous vous souvenez que c'est ce film qui met en scène l'hypothèse d'une comète qui va arriver sur la planète et qui va la détruire et qui montre des dirigeants qui regardent ailleurs. Vous voyez ce qu'on est en train de vivre avec l'écologie, l'environnement et Donald Trump, ça ressemble à peu près au scénario de Don't Look Up.
Un petit mot, puisqu'on parlait d'Elon Musk, qui donc, je le rappelle, est le propriétaire de X, l'ex-Twitter. On assiste en France, et ailleurs aussi d'ailleurs, mais le débat est très prégnant en France, à une campagne appelant à quitter ce réseau social. Est-ce que vous vous posez la question, vous ? Est-ce que vous vous êtes demandé ?
Franchement, je me suis posé la question. Ouais. Et honnêtement, si j'étais pas rentré au gouvernement, je pense que j'en serais sorti. Et en même temps, là, la décision que nous prendrons au gouvernement, elle sera collective. C'est-à-dire que ça peut avoir un impact si tout le monde part en même temps. Donc là, en ce moment, il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Je suis quand même assez convaincue par l'idée d'ailleurs qui a été évoquée par Yael Brampivet que, après tout, si tout le monde part, il n'y aura plus personne pour porter la contradiction. Et donc, à un moment, surtout quand on a des fonctions politiques, il faut peut-être moins chercher son propre confort ou la pureté de son image que l'efficacité du combat collectif. Et donc, je pense que là, il faut résister pied à pied. Et moi, j'appelle tous nos entrepreneurs et nos têtes pensantes et nos ingénieurs français à penser le réseau social de demain. Alors, je sais qu'il existe Blue Sky, mais il faut qu'on arrive à penser l'alternative à ces GAFAM et qu'on soit capable, à un moment donné, de tous les quitter pour pouvoir aller sur des réseaux sociaux français, européens et qui échappent, en tout cas, à ces milliardaires de l'international réactionnaire, comme les a appelés Emmanuel Macron.
Est-ce que vous avez vu un salut nazi dans le geste d'Elon Musk lors de son meeting le 20 janvier au soir ?
Mais forcément. Enfin, alors, on peut pinailler sur l'ambiguïté. Le geste, c'est un salut nazi, c'est pas un salut nazi. Écoutez, moi, j'en sais rien, mais c'est comme quand Dieudonné avait fait son propre geste, vous vous souvenez. Il avait fait un geste.
Ce qu'il appelait la quenelle, c'est ça ?
Ce qu'il appelait la quenelle. Oui. C'est-à-dire que c'est tous ces gestes totalement ambigus. Oui. Il se trouve que quand quelqu'un à peu près de notre âge voit ces gestes, il pense immédiatement au salut nazi. Ouais. Et ce n'est pas fait au hasard. Donc il y a quelque chose qui relève
d'une
vision totalitaire.
Et si c'était vraiment un salut nazi, vous ne vous dites pas qu'il l'a fait dans un lieu public, devant des milliers de personnes, en sachant qu'il était filmé? Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il assume, ou qu'il assumerait, une sympathie pour le nazisme de manière absolument décomplexée?
Écoutez, il s'est prononcé quand même dans le cadre des élections en Allemagne pour le parti le plus réactionnaire.
L'AFD?
Exactement. Ouais. Donc il l'assume. Donc je crois qu'après, de toute manière, que ce soit ou non une référence explicite au nazisme, c'est de toute façon, il envoie des messages contre la liberté, contre la tolérance, et surtout les messages de quelqu'un qui veut décider de tout pour lui tout seul, sans aucun projet collectif, donc c'est dangereux.
Alors, Elon Musk sera peut-être à Paris prochainement pour un grand sommet sur l'intelligence artificielle, puisqu'il y a été invité par le président de la République, qui aura lieu les 10 et 11 février. En tout cas, l'intelligence artificielle, c'est une révolution à laquelle nous sommes en train d'assister, qui ouvre des horizons tout à fait considérables. Très schématiquement, on peut dire qu'il y a ceux qui voient dans l'IA, l'intelligence artificielle, une chance, un facteur de développement extraordinaire, presque sans limite, et ceux qui y voient plutôt une menace, notamment pour l'emploi, mais aussi pour l'humanité, puisque certains vont jusqu'à évoquer la crainte qu'un jour, le contrôle de l'intelligence artificielle ne puisse échapper à l'homme. De quel côté penchez-vous ?
Moi, je suis une éternelle optimiste. Donc, je suis convaincue qu'on arrivera, comme tous les progrès techniques, qu'on arrivera à le canaliser, à le mettre au service de l'humanité. Et j'espère que Musk sera ce que l'on voit dans les James Bond. Vous savez, il a vraiment l'attitude du méchant dans James Bond, c'est-à-dire du type qui veut utiliser le progrès technique à son seul profit. Bon, moi j'espère que ça se terminera bien et qu'on aura les moyens de neutraliser les effets négatifs de l'intelligence artificielle lorsqu'elle est utilisée par des personnages peu scrupuleux et que collectivement, on pourra en faire quelque chose de bien. À vrai dire, j'en suis convaincue. Je vois dans les quartiers dans lesquels je vais sur le terrain, des associations que je rencontre, une telle énergie positive, une telle envie d'épanouissement que je ne peux pas croire que tout le monde se résigne à donner les clés du monde à quelques milliardaires sans scrupules qui mettront le progrès technique juste au service de leur cause.
On va marquer une deuxième respiration musicale, Juliette Méadel, dans cette émission. Et je le disais tout à l'heure, donc c'est un tout autre registre que Chopin, puisqu'il s'agit cette fois de Jamiroquai, avec le titre « Emergency on Planet Earth ». Jamiroquai, donc, avec ce titre que je n'ai plus sous les yeux, mais si, le voici. C'est Emergency on Planet Earth. C'est pour ça que vous l'avez choisi? Parce que, oui. Alors, ça veut dire alerte sur le cœur, oui, de la planète. Enfin, bon, c'est une chanson qui est sortie il y a quelques années. Hein.
Bah, c'est une chanson qui est sortie il y a 30 ans, pratiquement.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait 30 ans.
En 93, donc 22 ans.
22 ans. Ouais. Non, on est en 2020. Non, ça fait 30 ans. On, oui, est en 2025.
Alors, eh bien, j'étais en train de vous expliquer que je sautais, voilà, systématiquement des décennies.
Ouais.
Mais il me semble, pour être absolument honnête, quand nous écoutions la chanson, que nous l'avons sauté ensemble cette décennie, parce qu'on avait, exactement, conclu que ça faisait 22 ans. Hein.
Donc, ça fait 32 ans.
Ça fait 32 ans. Donc, il était un peu pionnier
Ça. Il était pionnier. On était avant La Maison Brûle et Nous Regardons Ailleurs de Jacques Chirac.
Oui.
Et il avait raison. C'est-à-dire qu'il y a, et puis, ce qu'il y a dans tout cet album, en fait, c'est et à l'époque, on y croyez pas, c'est la planète brûle.
Ouais.
Emergency on Planet Earth, c'est vraiment c'est la situation d'urgence, il faut s'en saisir. Je trouvais que c'était fort sur le plan politique et puis c'était aussi précurseur. Alors après, Jamiroquai, c'est jam, ça veut dire jazz, et Iroquois, c'est le nom d'un peuple,
peuple indien.
Ouais. Les Iroquois, il a inventé un vrai style, c'est-à-dire qu'on est entre l'acid jazz, le funk, la new jack. Il a été extrêmement créatif, il est même allé jusqu'à faire de la dance, ouais, du rock. Il avait des instrumentistes incroyables, un bassiste fou. Non, c'est vraiment, je trouve que c'est l'un des génies de sa génération, et qu'il a vraiment fait faire un saut musical, même en France, même à la variété française, qu'il a inspiré. Les Daft Punk se sont inspirés aussi de lui dans leur instrumentalisation dans l'album Get Lucky, notamment. Donc c'est vraiment...
Il faudrait que vous reveniez pour une émission 100% musicale. On va en venir, Juliette Méadel, à la France d'aujourd'hui, la France maintenant. Vous êtes donc devenue ministre déléguée chargée de la ville le 23 décembre dernier, ça fait donc un mois, dans le gouvernement de François Bayrou. D'après vous, pour quelles raisons le Premier ministre a pensé à vous pour entrer au gouvernement et pour ce poste en particulier?
Bah, d'abord, il faudra lui demander, parce que
oui, mais
serait quand même
est-ce
mieux que
vous
ce soit
vous
lui.
Êtes dit, tiens, pourquoi moi?
Non, mais d'abord, il y a une question de positionnement politique.
Oui.
Moi, je suis une femme de gauche qui ne se retrouve plus dans l'état du Parti Socialiste, en tout cas jusqu'à ce qu'il accepte de ne pas voter la censure, c'est-à-dire dans cette dérive avec les Insoumis, qui a éloigné le Parti Socialiste de ses fondamentaux républicains, de ses fondamentaux sociodémocrates.
Mais qui les a ramenés à l'Assemblée.
Et qui les a ramenés à l'Assemblée, mais à quel prix? C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut quand même toujours être fidèle à ses valeurs. Moi, j'ai toujours été à la gauche... on dit toujours le centre de la gauche. Hein. J'étais pour le traité constitutionnel européen. J'ai soutenu François Hollande dans sa vision social-démocrate. J'étais un peu plus première gauche, comme on dit. C'est-à-dire que je crois plus à l'intervention de l'État, des collectivités locales et à la nécessité de l'ordre juste avec Ségolène Royal. Bref, c'est cette gauche régalienne, clémenciste, pour ceux qui se souviennent de ce que Clémenceau nous a apporté sur le service public. Blum, pour notamment la gauche réformiste, la lutte contre l'antisémitisme. Bref, cette gauche-là, moi, je trouve que le Parti Socialiste l'avait perdu de vue. J'ai aussi soutenu en 2007, pendant la campagne présidentielle de Ségolène Royal, François Bayrou, pour que, entre Ségolène Royal et François Bayrou, il y ait un accord pour permettre à la gauche de gagner les élections présidentielles. Puis, j'ai aussi travaillé pendant la campagne de François Hollande en 2012 avec ceux qui étaient partisans d'un échange avec François Bayrou. Pourquoi? Parce que je pense que la gauche a beaucoup plus à construire pour la France, des choses utiles avec le MoDem qu'avec l'extrême gauche. C'est ma conviction. Donc je suis convaincue de ça depuis toujours. Par ailleurs, j'aime beaucoup François Bayrou, dont j'ai admiré aussi les positions sur l'état de droit, sur le fait qu'il a, comme moi, refusé la préférence nationale, à laquelle je me suis opposée la loi pour l'immigration de l'année dernière.
Oui, bon,
et donc je trouve que c'est un homme... de rassemblement, c'est un homme de consensus, c'est un homme extrêmement fin, très cultivé, et pour moi, dans une France aujourd'hui fracturée, avec des extrêmes et une violence dans le discours, il est la bonne personne au bon moment. Donc je pense que le président de la République a eu raison de le nommer, c'est la bonne personne au bon moment qui sait fabriquer des consensus. Enfin, On l'a vu à l'Assemblée nationale. J'espère que ça va pouvoir durer.
Rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de la politique de la ville. Vous y faisiez allusion à l'instant. C'était le 16 janvier 2024, donc il y a quasi un an jour pour jour. Vous aviez signé une tribune dans le journal Le Monde dans laquelle vous estimiez, je cite, que la loi immigration était une grave faute politique et éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez parfaitement en phase avec vos deux collègues du gouvernement, Bruno Retailleau à l'intérieur et Gérald Darmanin à la justice?
Mais je ne serais pas rentrée dans ce gouvernement si le Premier ministre ne m'avait pas assuré, comme je l'ai fait avant d'accepter, qu'il partageait ma vision sur la préférence nationale.
Sur la question de préférence nationale.
C'est ce dont nous avons discuté. Nous avons parlé de ça et nous avons parlé des retraites et de la nécessité d'avoir une conférence sociale avec les partenaires sociaux pour revenir sur la réforme des retraites. Et c'est à ces deux conditions que je suis rentrée pour l'aider. J'avais confiance en lui, j'ai toujours confiance en lui. Vous voyez qu'il a respecté ses engagements, que par sa capacité à rassembler aussi sur l'échiquier gauche, il a pour l'instant obtenu un accord de non-censure du PS. Et je salue l'esprit de responsabilité des socialistes qui ont dit « nous préférons faire avancer la France avec des progrès sociaux plutôt que de coincer le gouvernement dans un tête-à-tête avec le Rassemblement national ». Et donc je trouve que c'était responsable. Je le salue et j'espère pouvoir contribuer à cette stabilité de notre pays.
Alors, venons-en à votre portefeuille, votre action pour la ville, que vous entendez prendre à bras-le-corps. Mais précisément, est-ce que ça n'est pas difficile de s'atteler à cette tâche, qui est considérable, qui pose des questions à la France depuis des décennies, quand on sait que depuis la dissolution et en l'absence de majorité, les gouvernements sont dans une espèce de sursis permanent? Est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce que j'y vais franchement, puisque peut-être dans 3 semaines, je ne suis plus là?
Mais on n'a pas le choix. En fait, quand on peut servir son pays, et quand on peut le faire, moi je suis tout à fait cohérente et je me sens très bien dans ce gouvernement avec François Bayrou et le président, quand on peut servir son pays, il faut le faire. Même si c'est un jour, même si c'est 2 jours, il faut y aller. Surtout que la politique de la ville, c'est vraiment une politique qui est construite avec les élus locaux, avec les associations et avec les habitants. Donc très très vite, quand vous êtes sur le terrain, vous savez, les clivages sautent, parce que je discutais ce matin avec la maire de Chanteloup.
Chanteloup-Lévis. Dans les Yvelines.
Exactement. J'étais également avec Gilles Leblanc, qui est maire de Hallonne, dans la Sarthe. Donc là, vous avez deux personnes de bord politique opposés, mais je peux vous dire que nous convergeons totalement sur l'idée que, un, il faut remettre de la puissance publique dans les quartiers, qu'il faut des cités éducatives avec des adultes pour accompagner les enfants et les adolescents au plan sanitaire, au plan éducatif, qu'il faut pérenniser autant que faire se peut les financements de la politique de la ville sur les grands projets de rénovation urbaine. Bref,
on a tous le souci
de l'intérêt général.
Juliette Mayel, que vous voulez, c'est une expression que vous avez employée, je crois, dans une interview à la Tribune, il y a quelques jours, vous voulez créer un électrochoc économique. Mais est-ce que cet électrochoc économique, il n'a pas déjà eu lieu et à plusieurs reprises, à travers les différents plans banlieues qui ont déjà été mis en œuvre?
Mais c'est l'une des beautés de la politique de la ville. Elle a été notamment propulsée par Jean-Louis Borloo il y a 25 ans. Il y a des dispositifs. Elle existe, cette politique. Là où ça change par rapport à quand j'étais au gouvernement sur les victimes, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de politique d'aide aux victimes. Je l'ai créée en interministériel à l'époque, puisque j'étais à Matignon. Et là, j'arrive et la politique, elle existe déjà. Donc, d'une certaine façon, c'est plus confortable parce que les outils existent. Il y a un budget dédié et il y a ce qu'on appelle l'interministériel, c'est-à-dire que tous les autres ministères, l'éducation, la santé, la justice, savent que vous allez venir les voir pour leur demander de vous aider à améliorer les services publics dans les quartiers. Donc, ça existe. C'est très confortable pour un ministre d'arriver avec un champ qui existe. Maintenant, qu'est-ce qui manque ? C'est extrêmement difficile d'obtenir des résultats alors qu'on a, par exemple, l'explosion du trafic de drogue dans les quartiers.
Ouais.
Et donc, vous voyez, ça, c'est une donne qui a changé.
Et dans de plus en plus de quartiers et de villes de moins en moins grosses, y compris les villes moyennes aujourd'hui, sont concernées par ce problème.
Absolument. Donc, mais c'est un phénomène qui touche le monde entier depuis le Covid. Il y a une explosion des trafics de drogue. Il y a des mafias qui sont de plus en plus riches. Donc, c'est pour ça que le plan du ministère...
Et qui ont des moyens considérables. En armement,
mais
tout
en technologie, en armement. Donc, c'est pour ça que le plan de Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sur la lutte contre le trafic de drogue, il est non seulement nécessaire, il est indispensable et il est courageux. parce qu'il ne faudrait pas que la France se transforme en un État d'Amérique latine.
Oui, certains évoquent ce risque,
donc,
en effet.
Donc, ils ont totalement raison. Et ils ont d'autant plus raison que les crédits politiques de la ville, vous voyez, s'il n'y a pas de lutte contre le trafic de drogue, ben, ils sont engloutis, ils passent par pertes et profits. Donc, moi, j'ai besoin d'eux sur le plan de la sécurité pour faire de l'accompagnement social, éducatif, et pour mettre des adultes dans la pièce sur le terrain.
Alors, justement, on va en parler, mais alors vous dites que vous voulez donner le pouvoir aux femmes dans les quartiers.
Oui.
Par la formation, par le travail, en un mot, dites-vous, par l'émancipation. Oui. Comment allez-vous faire pour donner le pouvoir aux femmes dans les quartiers où, parfois, là, elles n'ont pas la vie facile ?
C'est précisément parce qu'elles n'ont pas la vie facile.
Oui, que vous voulez leur donner le pouvoir.
Exactement.
Mais ça ne se décrète pas le pouvoir non plus. Ça commence aussi.
Vous avez totalement raison. Le pouvoir, ça se prend. Alors, ça commence évidemment par tout ce qu'on sait déjà et que, l'État essaie de faire. La lutte contre les violences faites aux femmes, les inégalités contre les femmes, ça commence par là. Ça commence par la laïcité. Tout le monde est bien d'accord avec ça. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est de leur permettre d'avoir accès à une formation professionnelle, de les aider par exemple à monter une entreprise, un commerce, un artisanat. Je voudrais encourager l'artisanat, les TPE, les petites PME dans les quartiers, avec aussi de l'entrepreneuriat individuel, et c'est par les femmes. Vous savez que certaines banques financent par le microcrédit des activités très efficaces sur le plan économique auprès des populations les plus pauvres. Ça fonctionne bien, et les chercheurs savent bien que quand on passe par les femmes, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire que les banques, quand elles prêtent même des petites sommes d'argent à des femmes, le taux de remboursement est bien plus important que quand elle le prête à des hommes. Je veux pas jeter
le regard sur les hommes. Elles sont plus sérieuses, sans doute.
Mais c'est des études économiques qui le montrent très bien. Et donc, je veux donner le pouvoir aux femmes dans les quartiers, en particulier du point de vue économique.
Alors, dans une interview, j'en parlais à l'instant, toute récente à la Tribune, on vous demande si vous aurez également votre mot à dire sur la sécurité. Et vous vous répondez ceci. C'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de la Justice, Darmanin. Le mien consistera à faire de la médiation et de la prévention. Je crois beaucoup en la présence d'adultes. Vous venez de l'évoquer. Et alors, vous dites ceci. À Argenteuil, j'ai rencontré une femme de 71 ans qui cultive un petit jardin au pied de la cité. Et elle m'a raconté qu'elle n'hésitait jamais à envoyer balader les adolescents qui font n'importe quoi. Je crois beaucoup en cette mixité générationnelle. Alors, vous dites en même temps que les habitants de ces quartiers difficiles n'aiment pas du tout l'appellation « quartier politique de la ville ». Bon, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en même temps, il peut être pour eux difficile d'entendre ce que vous dites là, quand vous dites cette dame de 71 ans qui n'hésite pas à envoyer balader les jeunes, comme si au fond, la réprimande de quelques adultes pouvait ramener le calme dans des cités où parfois, véritablement, une forme de terreur règne.
Mais pourquoi la terreur règne ? Parce qu'on a délaissé ces quartiers et parce qu'il y a aussi des situations de pauvreté telles que quand vous êtes une femme seule avec vos trois garçons, que vous travaillez la nuit parce que vous allez faire des ménages dans des immeubles qui sont loin de votre domicile et que vous rentrez à la maison à 7h du matin et que vous ne pouvez pas être là pour préparer le petit déjeuner des enfants et s'occuper de leurs devoirs, mais vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que physiquement, vous ne pouvez pas. Eh ben effectivement, les enfants sont laissés à volo. Et donc, c'est là que la voisine du dessous, qui est un peu plus âgée, peut jouer son rôle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes ont besoin de tuteurs, de cadres, ont besoin d'adultes, ont besoin de limites. Donc, on ne va pas pointer du doigt les parents, parce que dans certains cas, ils ne peuvent pas. Ils sont pauvres, fragiles. Mais on élève un enfant avec tout un village. Et il y a des personnes âgées, c'est un vrai sujet dans les quartiers, le vieillissement, des personnes âgées qui ont envie d'être utiles, qui ont envie de s'occuper des jeunes. Pourquoi ne pas les aider à le faire ? Et dont la simple présence est utile. Vous savez, pour un enfant, j'évoquais la question de ma prof de piano, quand on a 8-9 ans et qu'on est un peu perdu ou que ses enfants sont un peu abandonnés, il suffit d'une personne, d'un discours, d'une personne qui vous aide un peu tous les jours, qui vous donne confiance, qui vous dit « non, ne fais pas ça », qui pose une limite pour vous aider à grandir. Ne croyons pas que
j'en ai
les
parlé
enfants n'ont pas besoin de limites.
Ici même avec Myriam Meyer, qui est une professeure de collège, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Wesh Madame », je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui fait partout de rencontres avec des élèves bloqués, butés, et qui d'un seul coup, par la lecture d'un livre qu'elle leur a proposé, se révèle et se transcende littéralement.
Mais disons bien cela, il faut de la culture, etc., de l'épanouissement, mais pour s'épanouir, un enfant a besoin de limites éducatives.
Oui.
De limites éducatives, ça veut dire d'exigence et de bienveillance.
On est arrivé au terme de l'émission. En un mot, Juliette Médel, à quoi mesurerez-vous que vous avez réussi votre vie ?
Ma vie ? Ah, j'ai cru que vous alliez me parler de la politique de la ville. J'allais
non,
vous répondre
beaucoup
que si dans 6 mois, j'ai réussi...
Et en très peu de temps.
Si dans six mois, j'ai réussi à être utile pour la politique de la ville, comme ce que j'avais pu contribuer à faire sur l'aide aux victimes, où j'avais réussi quelque chose, ben je serais heureuse.
Bon, je pensais que vous alliez me dire savoir jouer toutes les études de Chopin. Oh, parce que pour être honnête, on en a parlé un peu avant d'entrer en studio.
Merci
Juliette Méhazel d'être passée à l'atelier politique. Cette émission est à retrouver sur le site internet de RFI ou sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine.